France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Défendre son bout de gras, une histoire coloniale et politique, car il est possible d'écrire l'histoire du monde à partir du vin, des épices, ça nous le savons, et pourquoi pas du gras, du lard, du beurre, de la crème, de la margarine et de l'huile, bien sûr, d'olive, de palme, d'arachide, de tournesol, de coude, pourquoi pas. Le cours de l'histoire, une émission riche en lipides.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Commencez par verser dans un saladier environ un demi-litre d'huile. Versez énergiquement de façon à réveiller les molécules grasses. Dans un bol à soupe, versez environ un quart de litre d'huile que vous allez mélanger avec deux cuillères à soupe d'huile. Une et deux. Voilà. Vous allez maintenant mélanger énergiquement votre saladier d'huile avec votre bol d'huile dans une casserole. Ajoutez une dizaine de verres à kirsch d'huile. Voilà, dernière partie, la plus facile. Vous allez couper les petits morceaux d'une brique d'huile congelée que vous allez disposer dans une assiette que vous aurez au préalable remplie d'huile. Vous nappez avec votre casserole remplie d'huile tiède que vous aviez fait cuire au préalable. Servez le tout avec une bonne bouteille d'huile et...
Le cours de l'histoire.
De la margarine en accompagnement.
Évidemment. Valérie Lemercier et Nicolas Kaiser-Will, bonjour.
Bonjour.
Elle vous plaît cette recette ?
Ah, c'est excellent.
Moi, je rajoute un peu d'huile, toujours. Vous êtes plutôt beurre ou huile, vous ?
Plutôt margarine, beurre végétal.
Ah, beurre végétal, vous êtes journaliste, docteur en anthropologie. Vous publiez La guerre du gras, une histoire politique et gastronomique de nos lipides préférés ou mal aimés. Parce que ici, réfléchir sur le gras, c'est raconter une histoire du monde. Comment en êtes-vous arrivé là ? J'ose le demander parce que c'est pertinent de réfléchir comme ça, anthropologue que vous êtes, au gras comme la lecture de relations qui peuvent être politiques.
Alors moi, j'ai fait ma thèse sur les graisses végétales en France et en Allemagne au 19e et 20e siècle. Pour une raison simple, c'est que c'est l'un des principaux produits coloniaux exportés en Europe à cette époque-là. Puis il y avait assez peu de recherches dessus. Donc j'ai écrit 400 pages en anglais sur le sujet. Et je me suis dit que tout le monde n'allait pas lire ça. Donc j'ai fait un livre un peu plus petit qui fait une centaine de pages en français qui s'appelle La guerre du gras.
Quand nous pensons à la colonisation, nous ne pensons pas au gras. Pourquoi ? C'est une erreur, parce que on l'entend bien dans ce que vous dites, dans ce que vous avez pu étudier, le gras est omniprésent dans ces relations coloniales.
Alors c'est vrai qu'on pense pas au gras, peut-être parce que la colonisation américaine esclavagiste, ça commence avec le sucre, il y a évidemment tout ce qui est minerai qui joue un grand rôle, mais pourtant au 19e siècle, à partir des années 1830 environ, les graisses végétales, à commencer par l'huile de palme, prennent une place énorme, et on arrive à un moment à la fin du 19e siècle et jusque dans les années 30 où le gras est à mon avis le principal produit d'exportation coloniale en volume en tout cas.
Avec toute cette réflexion d'ailleurs sur le gras consommé, parce que dire le mot gras, ça couvre plein de réalités. D'ailleurs, dans le sous-titre de votre ouvrage, La guerre du gras, vous utilisez un autre mot qui est celui de lipide. À partir de quand commence-t-on à parler de lipides ?
Alors, la découverte des lipides au sens chimique, ça date des années 1820-1830 par un Français qui s'appelle Eugène Chevreul. Et c'est d'ailleurs le premier nutriment qui est découvert et qui ensuite pose les bases de toute la chimie organique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avant, on parle bien sûr de gras, mais le mot gras signifie gros, ça signifie pas lipide. Donc le concept de gras tel qu'on l'entend aujourd'hui comme étant un lipide, c'est quelque chose qui n'existe que depuis le milieu du 19e siècle.
Ça signifie que auparavant, donc avant le 19e siècle, avant qu'apparaisse ce mot lipide et surtout la définition qui lui est associée, les gens ne savent pas qu'ils mangent du gras. On peut pas le dire ainsi. Nos représentations du gras d'aujourd'hui ne sont pas la manière dont les gens du passé percevaient, qu'il s'agisse de l'huile, du beurre et de toute forme de gras, du lard, du saindoux.
C'est ça que je trouve fascinant d'un point de vue anthropologique, c'est qu'on a quelque chose qui est une matière qui est lipidique, qui est grasse, mais pourtant, d'un point de vue culturel, on n'allait pas à la messe servir du lard, évidemment. Pourtant, les gens voyaient bien que on pouvait faire brûler de l'huile d'olive, mais aussi du suif, du lard, etc. Donc, on a là une matière qui est culturellement extrêmement différente et qui est pourtant, dans les usages, est interchangeable.
Oui, interchangeable, parce que le gras peut être consommé, mais vous venez de l'évoquer, il peut être utilisé pour plein d'autres usages, parce que le gras, c'est la graisse, donc la mécanique n'est pas loin, c'est aussi l'éclairage.
Ça, c'est l'éclairage, c'est la savonnerie. Alors, la savonnerie pour le corps, mais surtout avant, la savonnerie pour laver la laine. Tout ce qui est lubrifiant, on a énormément d'usages possibles. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'histoire du gras est si difficile à faire, parce que on a une infinité d'usages et une infinité aussi de matières premières.
Surtout que ces utilisations se superposent, au sens où il n'y a pas un gras qui est remplacé par un autre gras, où on aurait une chronologie qui pourrait s'écrire avec du beurre, de la margarine, de l'huile, etc. Tout se superpose et au même moment, on a tous ces gras qui coexistent avec des modes peut-être et des utilisations différentes.
Oui, tout à fait. Et puis aussi une pénurie constante qui fait qu'on est obligé d'utiliser ce qu'on a sous la main. Et on peut tout à fait imaginer que les familles paysannes, jusqu'au tout début du XXe siècle, les bonnes années, elles avaient un cochon qu'elles tuaient pour faire du lard. Les mauvaises années, elles étaient obligées de récupérer les graines qui traînaient dans la forêt pour faire leur huile, et ainsi de suite. Donc tous ces usages, effectivement, sont interchangeables, mais il y a quand même une hiérarchie culturelle qui est extrêmement forte concernant toutes les matières grasses.
Oui, parce que vous relevez une pénurie de gras sur un temps très long, hein, jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que le gras n'est pas une évidence. Et en regardant l'histoire du gras, nous voyons bien qu'il y a une période dans laquelle nous sommes encore, où le gras est partout et nous débordons de gras, en contraste avec un passé qui pouvait manquer de gras. En tout cas, là aussi, la lecture sociale est évidente. Certains ne manquaient pas de gras quand d'autres en recherchaient sans cesse.
Le passage à cette espèce de surabondance de gras, il est extrêmement brutal, en fait. C'est les premières décennies du XXe siècle, les années 1920-1930. Et puis, quand ça se concrétise dans les années 1950 avec le fast-food tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et jusqu'à ces années-là, c'est vraiment une pénurie constante qu'on retrouve, qui se constate très bien avec notamment l'utilisation de la marmite. Si les personnes pauvres mangeaient des soupes, c'est surtout pour être sûr de ne pas perdre une seule goutte de graisse.
Ah oui, c'est ça. Hein. Rien n'était perdu. Le gras était précieux, et vous l'avez bien dit, pour des usages multiples, et notamment pour la conservation des aliments, parce qu'on l'oublie souvent, mais une des manières les plus efficaces pour conserver les aliments, c'est de les laisser dans du gras, que ça trempe dans de l'huile, pourquoi pas, ou que ce soit couvert de graisse animale. Et là aussi, on comprend pourquoi la quête du gras, ça a pu conduire nos ancêtres sans cesse à chercher de nouvelles formes pour, vous le disiez, des graines, faire de l'huile, ou alors un cochon qu'on tuait.
Oui, il y a de multiples manières de faire le gras. Il y a évidemment le beurre aussi, en récupérant le lait. Mais ça, c'est qu'on a toute cette recherche de graisse. C'était quelque chose qui consommait énormément de temps chez les plus pauvres. Il faut s'imaginer la situation, hein, pour les familles qui n'avaient pas de cochon ou pas de vache, ou en tout cas pas suffisamment. Il fallait aller faire sa propre huile, donc ça veut dire aller chercher dans la forêt, si on pouvait, des graines. Ensuite,
quelles graines d'ailleurs?
Ça dépend de ce qu'on trouve sous la main. Dans la région méditerranéenne, ça peut être du lentisque, c'est une espèce de pistache. Plus au nord, ça va être des faines de hêtre, donc les graines de hêtre, éventuellement des noix, etc. Donc il faut aller récolter tout ça l'hiver à la main. Ensuite, il faut le broyer pour faire une espèce de pâte qu'on mélange à de l'eau. Donc il faut imaginer la scène, hein. C'est des femmes et des enfants qui doivent faire ça la nuit à la lumière de la chandelle. Ça doit faire hyper mal aux mains d'ailleurs de d'écosser toutes ces noix. On broie tout ça. Ensuite, on le met dans un textile, on le presse pour faire une espèce d'huile. Là, les hommes peuvent être mis à contribution. Ensuite, on récupère le liquide et on le refait chauffer pour ensuite, à la cuillère, enlever l'huile qui surnage. C'est un procédé qui est extrêmement long, extrêmement coûteux, extrêmement compliqué. Donc on peut bien imaginer pourquoi, lorsque les graisses d'origine coloniale sont apparues à la fin du 19e siècle, on s'est empressé d'oublier les méthodes traditionnelles de fabrication de l'huile.
Oui, parce que le gras, c'est une histoire coloniale. Vous le dites bien, Nicolas Kaiser-Brill, et c'est là où nous saisissons l'importance aussi de la colonisation pour le quotidien de l'ensemble des populations. On voit bien que c'est pas simplement en marge, ce que nous pouvons évoquer pendant des siècles, voire des millénaires. La quête du gras, c'était presque un quotidien pour les gens, pour leur consommation, pour la conservation, pour l'éclairage. On cherchait du gras, et voici qu'il y a les colonies, et d'un seul coup, le gras arrive en masse. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui dans le cours de l'histoire, avec l'importance du regard à porter sur la culture dans cette histoire-là. Fernand Braudel, l'identité de la France, nous l'avons lu, la France du beurre, la France de l'huile, cette France qui se divise, ben ça aussi, c'est présent dans cette histoire.
Là. Oh. Le gentleman, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine avec ton huile?
Une omelette, tu goûteras ça, c'est formidable.
Et tu te fous de moi par-dessus le marché? Débarrasse le plancher, allez hop!
Ah dis, pas avant que j'ai terminé l'omelette.
Si tu veux pas t'en aller, moi je vais te faire partir.
Mais qu'est-ce qu'il te prend?
C'est pas parce que t'as la loi pour toi que tu veux avoir raison.
Mais voyons, raisonnable.
Mais tu te crois tout permis ici? Tout lui appartient, ma cuisine, ma femme, et quoi encore?
Une femme, ça se partage pas, d'accord, mais une cuisine, il y a la place pour deux, non?
Ah, mais c'est ce qui te trompe, j'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile. Toi, l'huile, tu sais ce que c'est, mais monsieur l'ignore.
Voilà ce que j'en fais, moi, ton huile.
Eh ben voilà, nous étions dans le film La cuisine au beurre de Gilles Grangier en 1963 avec Fernandel, le Marseillais, avec Bourvil, le Normand, ce conflit entre deux Frances, la France de l'huile au sud, la France du beurre au nord. La lecture est beaucoup plus complexe, Nicolas Kaiser-Brill, de cette histoire-là. La France se divise en deux formes de gras, mais ça va beaucoup plus loin quand même.
Oui, c'est sûr qu'on a cette vision un peu schématique d'une Europe du beurre au nord, Europe de l'huile au sud. Alors c'est sûr que c'est vrai, hein, on va pas faire de l'huile d'olive en Norvège, mais quand on regarde dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué, ça varie en fonction, comme je disais, en fonction des familles, en fonction des années, en fonction des modes éventuellement. Il faut savoir que, par exemple, l'huile de noix, qui était très présente dans le Massif central, dans le Jura, a beaucoup perdu en importance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la mode des meubles de noyer, donc on a abattu tous les noyers à la fin du 19e siècle. Les huiles consommées changent évidemment en fonction du milieu naturel, mais beaucoup en fonction des modes et des cultures à un moment donné.
Et puis en fonction aussi des positionnements dans la société, consommer du beurre, c'était pas la même chose quand on est paysan, quand on est aristocrate. D'ailleurs, comment est perçu le beurre dans cette histoire-là ?
Le beurre, ça a longtemps été quelque chose de très méprisé, depuis l'Antiquité, au Moyen-Âge aussi, et jusqu'à l'époque moderne. Le beurre, c'était quelque chose bon pour les barbares au départ, ensuite c'est devenu quelque chose pour les paysans. Et puis progressivement, 16e, 17e, 18e siècle, ça devient le gras de l'élite, pour différentes raisons. Et on arrive au 19e siècle où le beurre, c'est quelque chose d'extrêmement positif socialement. C'est la matière grasse des bourgeois, des aristocrates. C'est inconcevable de ne pas manger le pain au beurre pour eux. Et du coup, par ruissellement, ça devient pour les paysans et les ouvriers la matière grasse qui est désirée.
Et comment on peut expliquer d'ailleurs cette évolution de l'histoire du beurre ? Parce qu'il y a des raisons qui donc expliquent que le beurre d'un seul coup a la cote. C'est quoi ? C'est parce qu'il est difficile à transporter, qu'il a besoin d'être frais, et donc que tout le monde ne peut pas se permettre, quand on habite loin d'un centre de production, de disposer de beurre ?
Ah oui, il faut distinguer évidemment beurre frais des autres beurres, parce que quand on parle de beurre qui est échangé sur le marché jusqu'à l'arrivée de la réfrigération, on parle de beurre salé, et on parle pas du beurre demi-sel qu'on achète au supermarché, hein. Il est salé à 10%, ça doit pas être très très bon. On peut le faire fermenter aussi, donc c'est du beurre rance, et on peut le clarifier. Donc c'est ce qu'aujourd'hui on appelle le ghee, c'est on fait chauffer le beurre à basse température pour enlever l'humidité, pour avoir plus que de la graisse à la fin. Et donc effectivement, le beurre frais tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose de très coûteux, parce qu'il faut le faire venir très vite des lieux de production jusqu'au lieu de consommation. Et c'est pour ça que le beurre le plus prisé au XVIIIe siècle, à Paris, c'est le beurre de Vanves, parce qu'apparemment les fermes de Vanves étaient très réputées pour leur beurre.
Sans beurre et sans reproche, hein. C'est l'un des titres, des chapitres de votre ouvrage, Nicolas Kaiser-Brill, La guerre du gras. Oui, donc vous avez fait le choix du jeu de mots dans les chapitres, et c'est pas dans le cours de l'histoire qu'on va vous le reprocher d'ailleurs. Merci beaucoup, parce que l'art d'aimer avec l'art LARD, ça c'est tout ce qui nous porte aussi à vouloir considérer une histoire, celle du gras, pour comprendre d'autres histoires, celle de la colonisation, celle beaucoup plus politique, avec cette approche très particulière des matières grasses que vous étudier les unes après les autres, mais qui se croisent. Il n'y en a pas une qui est première, on ne peut pas mettre en avant le beurre plus que l'huile. Les histoires ne sont que parallèles.
On peut quand même en faire une chronologie.
Ah ouais, on commence par quoi alors ?
Ah bah probablement par l'huile d'olive, qui était quand même dans la culture gréco-romaine, chrétienne, juive. L'huile d'olive, c'est la base. Le Messie, il est loin, il n'est pas loin de là, hein, il est loin d'huile d'olive. Même chose dans la Bible, hein, on a des recettes. Quand il faut brosser les pierres sacrées, encore une fois, on ne le fait pas avec n'importe quelle graisse, on le fait avec des graisses avec de l'huile d'olive, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui des huiles essentielles. Donc déjà à l'époque, il y a toute cette hiérarchie. Les graisses, même si elles ont la même propriété, n'ont pas du tout la même valeur symbolique.
Avec le gras pour évidemment le lard et le gras du cochon qui est utilisé là aussi, que l'on retrouve et que l'on associe facilement, puisque nous avons lu Astérix et Obélix, à une lecture beaucoup plus Europe du Nord. C'est intéressant, hein, de voir ces grands schémas qui se dessinent. Dans l'étude que vous voulez faire, la volonté c'est quoi ? C'est de montrer comment nous passons de cette pénurie de gras, la recherche sans cesse de gras, à l'arrivée massive de gras venu de l'extérieur, c'est-à-dire des colonies. Est-ce que c'est un des moteurs de la colonisation ? Parce que vous commencez votre ouvrage, et on est étonné, en 1880, c'est lors des guerres, 1882 précisément, nous nous trouvons au Sénégal avec un soldat français à la recherche d'arachide. Et c'est intéressant comment vous étudiez la correspondance de cet homme avec ses banalités du quotidien qu'il écrit à sa mère, et puis l'horreur qu'il décrit dans le même temps. Pourquoi cette guerre ?
Alors, dans les années 1880, au Sénégal, la colonie est déjà un des centres principaux de fourniture d'arachide pour la France. Et les autorités françaises désirent se passer des intermédiaires. Il y a des intermédiaires africains qui leur fournissent les arachides dans les ports. Les Français veulent contrôler l'ensemble de la filière, pour utiliser des mots actuels, et ils veulent pour ça construire une voie ferrée qui va traverser la région du Cayor, où les arachides sont réputés. Évidemment, les intermédiaires africains ne veulent pas de cette voie ferrée, parce qu'ils veulent conserver leur rôle. S'ensuit des guerres, et notamment celle-là où les Français envoient ce qu'on appellerait une expédition punitive pour chercher et tuer l'un des chefs africains qui combat le projet de voie ferrée, qui s'appelle Lat Dior. Et donc on a ce soldat qui raconte à quel point il brûle les villages quand ça lui plaît, et il explique à sa maman que c'est quand même un petit peu ennuyeux, cette mission dans cet endroit où il n'y a pas grand chose.
Voilà, bah oui, il n'y a pas grand chose, et c'est ce que vous dites de manière très claire. Tout ça pourquoi ? Pour des cacahuètes. Parce que dans l'histoire que vous écrivez, la guerre du gras, c'est une approche d'anthropologue, hein, c'est votre formation, Nicolas Kaiser-Brill, il y a l'idée aussi de saisir les motivations de la recherche du gras. Nous le comprenons, ce besoin sans cesse de gras, de plus en plus de gras, et au cours de cette émission, on va pouvoir développer comment les besoins sont créés pour en avoir besoin encore plus. Est-ce qu'on pourrait dire que la recherche du gras, ou de lipides, pour utiliser un mot qui est né au 19e siècle, c'est une des motivations de la colonisation ? La guerre que vous nous évoquez là, c'est avoir le contrôle sur des terres pour les cultiver et en tirer des bénéfices. Ce n'est plus simplement disposer d'un contrôle sur le littoral et pour, ici, avec les ports, faire du commerce.
Dire que c'est une motivation de la colonisation, bon, on sait que la colonisation, c'est quand même un phénomène majeur qui a plein de causes. Je ne m'avancerai pas à ce point-là. Ce qui est certain et qui est très intéressant dans l'histoire du gras, c'est que, de manière très consciente, les marchands qui, jusqu'au début du 19e siècle, commerçaient les corps humains, à partir du moment où le commerce d'êtres humains est interdit en Grande-Bretagne, puis en France, dans la première moitié du 19e siècle, très consciemment, ces marchands-là se disent qu'est-ce qu'on va faire de tous nos réseaux, de tous nos bateaux ? On va faire de l'huile de palme, on va faire de l'arachide. Et ça, ils l'écrivent noir sur blanc, hein, de dire... maintenant, le commerce légitime, ça va être de l'huile de palme et de l'arachide. Ça va être très bien pour tout le monde, ça va être très bien pour l'Angleterre, ça va être très bien pour l'Afrique. Maintenant, on fait ça. Donc là, très clairement, on réutilise toute la structure du commerce d'êtres humains pour faire du gras.
Oui, parce que pour la traite, il n'y avait besoin que de contrôler les ports pour accueillir des populations qui étaient parfois conduites jusque-là, tandis que pour faire de la culture, il y a besoin de contrôler les terres. Et on voit bien qu'il y a l'utilisation en fait des anciennes structures destinées à la traite négrière pour désormais soutenir le commerce et la production aussi d'huile. Donc là, c'est quoi? C'est arachide, palme?
Au début, c'est arachide et huile de palme qui sont deux cultures que les Africains ont développées. Donc l'arachide, ça arrive en Afrique au XVIe siècle. C'est les Africains qui l'acclimatent pour que ça devienne quelque chose de très banal au XIXe siècle. Et au départ, il ne s'agit pas du tout de contrôler du territoire. Au départ, encore une fois, c'est exactement les mêmes logiques que le commerce d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a des marchands européens qui arrivent dans les ports, qui connaissent absolument pas ce qu'il y a derrière et qui achètent, donc non plus des corps humains, mais qui achètent des barils d'huile de palme ou des sacs d'arachide. Mais tout le commerce, toute la culture est faite par les Africains qui, pour cette culture d'ailleurs, n'hésitent pas à recourir au travail esclavagisé. L'esclavage change de forme, mais il reste là. C'est d'ailleurs un gros problème pour les Français au Sénégal dans les années 1880, parce qu'on a des esclaves qui arrivent à Saint-Louis et qui disent « Ah, ça y est, maintenant, je suis en France, je suis libre. » Et puis on a les autorités françaises qui disent « Ah non, il faut retourner travailler dans les champs, là, c'est pas possible, parce que sinon, on n'aurait plus d'arachide. »
Avec ici l'arachide qui vient d'Amérique du Sud. C'est aussi cette idée de transfert et faire venir l'arachide d'Amérique du Sud pour le développer en Afrique, avec cette volonté de prendre part à l'ensemble de ce commerce en s'appropriant les richesses, en les mettant en valeur, pour utiliser un autre vocabulaire, et avec une conscience ancienne de toutes ces richesses naturelles liées au gras.
Lorsqu'on défriche les forêts pour cultiver la terre, on coupe tous les arbres, excepté les arbres à beurre. Cet arbre ressemble beaucoup au chêne américain. Et le fruit, avec le noyau duquel, séché au soleil et bouilli dans l'eau, on prépare le beurre végétal, ressemble un peu à l'olive d'Espagne. Le noyau est enveloppé d'une pulpe douce que recouvre une mince écorce verte. Le beurre qui en provient, outre l'avantage qu'il a de se conserver toute l'année sans sel, est plus blanc, plus ferme. Et à mon goût, plus agréable qu'aucun beurre de lait de vache que j'ai jamais mangé. La récolte et la préparation de cette précieuse denrée semblent faire un des premiers objets de l'industrie africaine, tant dans le royaume de Bambara que dans les pays environnants.
C'est Thomas Beau qui nous lisait ce texte. Nous sommes à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1795, avec un voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Et ici, il y a la volonté de saisir de nouvelles sources de gras. Alors, nous sommes dans ce long prolongement du XVIIIe siècle, avec la volonté de clarifier, d'inventorier, de classer l'ensemble du vivant. Et le gras a sa place là-dedans. Il y a cette volonté de trouver d'autres gras.
Oui, quand on lit ce que les voyageurs européens écrivent de l'Afrique à cette période-là, donc fin 18e, début 19e, ils sont souvent frappés par les beurres végétaux. Donc ce qui s'appelle à l'époque beurre de Galam, beurre de bambou, qui sont deux régions du Sénégal. Et là, dans ce témoignage-là, on a quelque chose d'un peu exceptionnel, puisque le voyageur, c'est Mungo Park, si je ne m'abuse.
Oui, c'est exactement
un naturaliste écossais. Lui, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il voit les arbres à beurre, donc c'est des arbres de karité. Il voit comment c'est produit, mais la plupart des voyageurs de l'époque ignorent complètement ça. Et pendant tout le 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, on retrouve dans des dictionnaires ou dans des ouvrages savants des personnes qui nous disent « Bon, ben voilà, il y a le beurre de Galam, c'est du beurre végétal. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est de l'huile de palme, peut-être que c'est autre chose. » On ne sait pas. Donc, il y a une ignorance assez forte des Européens concernant les beurres végétaux en Afrique, mais pourtant, ils sont très intéressés. On a des naturalistes qui vont en Afrique, après avoir lu Mungo Park, qui vont en Afrique spécifiquement pour voir les fameux arbres à beurre. Et on peut imaginer, même si je n'ai pas trouvé de source qui le disent clairement, on peut imaginer que les Africains ne sont pas complètement fous et ne veulent surtout pas dévoiler le secret du beurre végétal.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de magique avec le gras. C'est rare que le gras pousse naturellement. Et au moins, vous me donnez un kilo d'olive, jamais je vous donnerai de l'huile d'olive. Je ne sais pas le faire. C'est dur de faire du gras. C'est dur de faire du beurre aussi, même si voilà, faut savoir en même temps se faire les muscles, mais c'est pas facile. Et c'est aussi le cas ici dans cette histoire liée à la colonisation, c'est la découverte d'autres potentielles sources de gras. Encore faut-il savoir les mettre en valeur.
Il faut savoir les mettre en valeur, et là les savoir-faire africains jouent un rôle très important, parce que l'huile de palme qui est achetée au début du 19e siècle par ces marchands-là, elle est évidemment produite par les Africains. Cela étant, il faut savoir le faire. Encore une fois, vu que vu que le gras est un lipide et que du point de vue chimique, c'est quelque chose de relativement pas forcément simple, mais en tout cas fongible. Un gras peut en remplacer un autre. C'est-à-dire que les techniques qu'on connaissait en Europe pour faire de l'olive, on peut les adapter très facilement pour faire de l'arachide. Et en quelques années, par exemple, tous les moulins à Marseille sont refabriqués, reconçus pour traiter de l'arachide. Si bien qu'en 1900, par exemple, on ne fait plus d'olive à Marseille, on ne fait que de l'arachide.
C'est-à-dire que Marseille devient le port d'entrée des arachides en France.
Tout à fait. Il y a trois ports qui se spécialisent pour les gras coloniaux. C'est l'huile de palme à Liverpool, pour faire simple. Huile de palme à Liverpool, arachide à Marseille, noix de coco à Hambourg.
Voilà, d'accord, ok. Donc, et après, on le sait bien, il faut mettre de la complexité dans cette histoire-là où rien n'est exclusif et tout se mélange et se superpose avec ces matières grasses d'origine coloniale. Donc, je vous entends, Nicolas Kaiser-Brill, il y a l'arachide, on peut voir ici que c'est quelque chose qui est lié à notre histoire aussi, hein, parce que l'arrivée est par Marseille. L'huile de palme, ça, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir des spécialisations selon les dominations coloniales. La France va-t-elle favoriser un peu l'arachide, tandis que le Royaume-Uni aurait tendance à favoriser l'huile de palme?
C'est assez compliqué de simplifier les choses à ce point-là. Ça serait tentant de dire, France, arachide parce que Sénégal. En réalité, l'arachide qui arrive en France, à partir de 1870, elle vient surtout des Indes britanniques. On peut rentrer dans le détail, c'est pas les mêmes qualités d'arachide, etc. Mais quand on se met du point de vue des marchands, la colonisation, ça les intéresse parce que ça leur permet d'avoir des matières premières à très bas coût à cause du travail forcé. Savoir s'ils vont utiliser des arachides qui viennent de Dakar ou qui viennent des Indes britanniques, ils s'en foutent complètement. C'est intéressant pour eux d'un point de vue de propagande de pouvoir dire oui, nous, on participe à la grandeur. Alors les Allemands du Reich, les Français du projet colonial français. En réalité, quand on regarde les statistiques d'importation, on s'aperçoit qu'ils achètent juste le moins cher.
Avec la réception aussi, parce que les personnes qui consomment sont-elles intéressées par l'origine de ces matières grasses? Quand on est habitué à manger du beurre ou à utiliser de l'huile d'olive, prendre de l'arachide, c'est pas insignifiant, ça veut dire changer ses habitudes. Alors ça peut être favorable en se disant « exceptionnel, moi je suis le mouvement et la nouveauté » ou alors une certaine méfiance. Comment sont présentées ces nouvelles matières grasses?
C'est tout le sujet de ma thèse, de se dire, il y a des millions et des millions de tonnes de matières grasses importées des colonies qui arrivent et qui sont mangées en Europe. Comment est-ce que les Européens et les Européennes voient ça? Et la réponse, c'est c'est compliqué. En ce qui concerne l'huile, il faut revenir à la valeur culturelle du produit. Et au 19e siècle, début 20e siècle, l'huile, c'est pas que les gens s'en fichent, mais pas mal quand même. L'huile d'olive telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de valorisé. On parle d'huile de table, huile blanche, c'est quelque chose qu'on utilise pour les salades. C'est tout à fait normal d'acheter de l'huile d'olive dans lequel il y a un quart d'huile d'olive, trois quarts d'huile d'arachide. Ça ne dérange personne. Le concept de fraude, de falsification n'existe pas encore à l'époque. On considère que l'huile, c'est ce qui a la fonction d'huile. Ce qu'il y a dedans, c'est pas très intéressant. Et les choses sont très différentes pour le beurre, parce que, comme on le disait tout à l'heure, le beurre a une valeur culturelle très spéciale à l'époque. C'est le gras des aristocrates. Là, par contre, il faut vraiment... on recherche le beurre de vache, le beurre frais. Et si c'est pas ce qu'on a, alors là, c'est la catastrophe. Et on a une espèce de panique morale à partir des années 1870 concernant ce qu'on appelle le beurre artificiel, qui est très, très différent de ce qu'on constate sur l'huile.
Le beurre, ça se respecte.
Chaque jour, il faut effectuer un lavage à l'eau bouillante additionnée de cristaux, un rinçage à l'eau froide additionnée d'une cuillerée à soupe d'eau de Javel pour 10 litres d'eau, et ne pas omettre de faire sécher les appareils et les seaux. Ce n'est pas tout. Il faut penser à surveiller la ration de vos bêtes. L'alimentation des vaches laitières permet d'agir en effet sur la qualité commerciale du beurre. Les fourrages verts, les tourteaux de copra et de lin, le maïs en grains et en farine, l'avoine, le son par exemple, donnent un beurre mou, alors que les feuilles et collets de betteraves, les pommes de terre, les tourteaux de palmiste, de coton, les légumineuses donnent un beurre dur. Les régimes alimentaires courants ont donc tendance à donner un produit dont la qualité commerciale n'est pas en rapport avec la saison. Il devient nécessaire de corriger la ration alimentaire par l'addition d'aliments concentrés appropriés. Vous savez également que les choux donnent une saveur désagréable au beurre. En revanche, le thym, le fenouil, la carotte, le panais, les grains d'anis, la flouve odorante lui communiquent un parfum agréable. Par ailleurs, la feuille de frêne permet d'obtenir une couleur jaune d'or et un goût de noisette. Or, le beurre, c'est celui qui possède ce goût de noisette. En outre, il ne laisse pas à la coupe suinter d'eau blanche et se conserve bien.
Et ben voilà, en 1955, la fabrication du beurre, avec cette longue histoire du beurre, hein, vous nous l'avez dit, la consommation du beurre évolue. Il y a des régions où le beurre est plus facilement produit que d'autres, mais le transport du beurre demeure toujours une question, auditeur, auditrice du cours de l'histoire, toujours attentif et attentive à ce que vous nous dites, apporte les précisions. Il nous dit qu'à partir du XIVe siècle, dans les régions peu consommatrices, eh bien, il est possible d'avoir du beurre grâce à l'invention et au développement d'un matériau qui est le transport dans des pots en grès. Et dès lors, il est plus facile d'avoir du beurre. Mais le beurre coûte cher. Et dans ce procédé, Nicolas Kaiser-Bruhl, que vous nous évoquiez, la volonté d'être en copie de ce que font les gens juste au-dessus de nous socialement, eh bien, de plus en plus nombreuses sont les personnes qui souhaitent consommer du beurre. Mais il n'y en a pas assez. Trouvons une solution. Que pouvez-vous nous proposer ?
Eh bien, alors, c'est toute la question du beurre artificiel. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur quelque chose d'intéressant qui était dans l'extrait, parce que peut-être que toutes les auditrices, tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est qu'un tourteau de palmiste. Et donc, les tourteaux dont on parlait dans l'extrait, ce sont les restes de la pression de l'huile. Les palmistes, c'est les noyaux des graines de palme. L'huile de palme, c'est fait à partir de fruits qui ressemblent à des avocats. On peut soit presser la chair, soit presser le noyau. Et les tourteaux, donc c'est ce qui reste après la pression, et c'est très riche en protéines, et donc les huileries vendent ces tourteaux ensuite aux agriculteurs pour qu'ils les donnent à leurs bêtes. Et ça montre bien l'imbrication qu'il y a entre le commerce colonial et les industries locales, et tout le beurre qui est produit depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il est indissociable de ce commerce colonial, parce que les vaches, elles mangent pas que de l'herbe, elles mangent aussi ces tourteaux qui sont le résidu de ce commerce colonial.
Et aujourd'hui, elles mangent des tourteaux de maïs aussi, donc ça demeure toujours cette association sans cesse entre la production du gras, l'agriculture, et puis la volonté de trouver de nouvelles formes de gras, donc le beurre végétal. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors, cette question du beurre végétal ou du beurre artificiel, c'est quelque chose qui se développe à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, où, comme je disais tout à l'heure, les paysans, les ouvriers qui, jusqu'à cette période-là, où l'alimentation n'était pas quelque chose de garanti, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle, on peut dire qu'ils sont contents si ils ont suffisamment à manger, quelle que soit la forme. À partir de là, il y a ce désir d'avoir du beurre sur du pain qui naît chez les ouvriers, chez les paysans. Le beurre est parfois trop cher, donc on cherche à faire du beurre artificiel. Il y a plusieurs recettes, plusieurs méthodes qui sont en compétition jusqu'en 1870, où un Français qui s'appelle Hippolyte Meige-Mouriez invente la recette d'un beurre artificiel meilleur, qu'on appelle aujourd'hui la margarine, où il a l'idée de faire fondre du suif, donc de la graisse de bœuf, à relativement basse température pour séparer la stéarine, qui est le gras qu'on utilise pour faire les bougies, donc c'est pas très bon à manger, de ce qu'il appelle l'oléomargarine, qui est là quelque chose qui est bien meilleur. Et donc il peut, avec ce gras-là, il le rebarate dans du lait sans graisse. Et il obtient ce beurre artificiel. Et ça, très vite, ça rencontre un succès fou parce que la qualité est comparable avec du beurre moyen de l'époque, mais ça coûte beaucoup moins cher.
Ça coûte beaucoup moins cher. C'est une histoire française ici parce que dans la réflexion que vous avez sur la guerre du gras, nous avons une histoire coloniale et une histoire qui est largement hors des frontières nationales. J'imagine que ce beurre artificiel, la margarine, donc inventé à la fin du 19e siècle, va intéresser d'autres pays.
Alors c'est une histoire européenne, en partie parce que Hippolyte Mesmouriez, malheureusement, il n'y a pas de biographie de cette personne qui doit être assez intéressante, parce qu'apparemment, Mesmouriez était tellement fier de sa découverte qu'il l'a montré à un entrepreneur néerlandais, a priori juste pour se faire mousser. Peut-être qu'il a reçu un paiement assez faible, on ne sait pas. Et cet entrepreneur néerlandais, qui s'appelle Jurgens, tout de suite crée une grosse usine de margarine, alors qu'il n'y en a pas encore à Paris, crée une grosse usine de margarine à Os, aux Pays-Bas. Et c'est vraiment là, dans cette ville-là, que l'industrie de la margarine prend son essor.
Voilà, et nous nous sommes fait voler la margarine par des Néerlandais. Bah, c'est encore une guerre du gras.
Est-ce vrai ce qu'on m'a dit ces jours-ci ? Que la Hollande est non seulement le pays des tulipes, mais aussi celui des miracles et des conversions stupéfiantes ? Et que les députés envoyés de France dans ce pays voué à jamais aux margarines ont été si ébahis du raffinement avec lequel on la raffine au bord des canaux néerlandais que, partis de Paris beurriers convaincus, ils seraient revenus à quelques-uns tout au moins margariniers féroces. C'est-à-dire, entendons-nous, partisans de la réglementation des ventes margarinières et non de la prohibition pure et simple du produit. Les Hollandais ont emberlificoté nos commissaires en leur montrant des merveilles chimiques. Repoussons toute loi qui permettra la moindre confusion des beurres avec elles sur notre territoire. Pas de mariage à aucun prix du beurre national avec la margarine anarchique.
Voilà, c'est Maïwenn Guizhou qui lisait cet extrait du Petit Journal de 1894, hein, qui évoque ces conflits, et notamment avec les Pays-Bas, ils disent la Hollande. Nous avons, dans la volonté Nicolas Kaiser-Bruhl de saisir ces transformations profondes de la consommation du gras et puis des équilibres qui changent, l'idée que donc peu à peu, avec la colonisation, arrivent de nouvelles formes de gras. C'est-à-dire que dans le même temps où de nouvelles matières grasses arrivent des colonies, en Europe même, on invente de nouvelles matières grasses. C'est un phénomène qui fait que l'ampleur du gras ne cesse de s'accroître, donc fin 19e, début 20e siècle.
La première utilisation de ces matières grasses, en réalité, elle est pas liée à l'alimentation, puisqu'il s'agit du savon. Et toute l'hygiène moderne, en fait, elle naît en partie du besoin d'utiliser l'huile de palme que les marchands achètent en Afrique. Et donc, le savon en particulier, le savon de William Levert, grand industriel britannique, il est tout à fait lié à cette histoire coloniale. Et l'alimentation arrive dans un deuxième temps. Mais à partir des années 1870, et notamment avec cette invention du beurre artificiel, le gras colonial arrive dans les ventres des Européennes et des Européens.
Est-ce qu'on arrive à savoir, d'ailleurs, entre le gras fabriqué en France ou au Royaume-Uni ou en Allemagne, peu importe, et le gras venu des colonies, est-ce qu'il y a des idées de proportion ici, lequel l'emporte ?
C'est très difficile de faire des statistiques historiques sur le gras. Alors d'une part, et ça vous en avez déjà discuté un petit peu hier, c'est que c'est très difficile de savoir ce que les gens mangent, hein, parce que on tient pas de journal de bord de ce qu'on met dans le ventre. Et puis par ailleurs, les statistiques d'importation sont très lacunaires. Cela étant dit, pour donner des ordres de grandeur, il y a une étude de l'INSEE de 1946 dit que, je crois que c'est 80% des matières grasses disponibles en France avant-guerre, donc en 1939, sont importées. Donc très concrètement, on peut aussi utiliser les statistiques, par exemple, sur les champs de colza en Europe. Dans les années 30, il n'y en a pas. Il y a plus la culture du colza qui commence au XVIIIe siècle. Dans les années 20, dans les années 30, ça n'existe plus. Tout le gras européen est importé.
Avec cette émission que vous évoquiez, défendre son bout de gras, enfin en tout cas l'histoire de la diététique quand la science s'invite dans l'assiette, c'est à écouter sur franceculture.fr. FR et sur l'appli Radio France. C'est sûr que, question diététique, vous, la guerre du gras, vous êtes Nutri-Score D, mais c'est passionnant hein, comme approche. Et on a ici, maintenant, en Europe, une surabondance de gras. On passe d'une pénurie à une surabondance. Comment, à ce moment-là, le gras colonial est-il perçu? Et dans les approches, vous l'avez bien dit, hein, c'est complexe d'étudier ces histoires-là, parce que les gens ne vont pas noter chaque jour la quantité de beurre ou d'huile qu'ils utilisent. Mais il y a d'autres biais, et notamment la publicité. C'est là où l'on peut voir des distinguos entre des productions locales, des productions coloniales. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît dans les arguments de vente?
Dans la publicité, on voit apparaître cet exotisme dans les années 1900 à peu près. Et c'est quelque chose qui n'est pas limité au gras. Hein. On retrouve des motifs racistes, des motifs coloniaux absolument partout. En France, le pic de ce colonialisme consumériste, c'est à 1931 avec la grande exposition coloniale cette année-là. Cela dit, moi ce que j'ai fait dans mes recherches, c'est d'essayer de voir s'il n'y avait pas une spécificité quand même pour les industries qui utilisaient les produits coloniaux. Et c'est assez difficile de faire ça parce que les publicités qui sont arrivées jusqu'à nous sont très lacunaires. Par exemple, à la bibliothèque Fornet à Paris, où il y a une collection d'affiches, les affiches ont été choisies non pas en fonction du tirage qu'elles ont eu, mais en fonction de leur qualité esthétique. Et moi, j'ai trouvé des campagnes de publicitaires qui avaient marqué, dont on parle dans les journaux régulièrement, donc qui ont marqué la population et qui ne sont pas à la bibliothèque Fornet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé comme source des timbres réclames. Alors le timbre réclame, c'est un grand médium de publicité dans les années 1910-1920 en Europe. C'est des timbres qui sont un peu plus gros que les timbres postes, qu'on colle pour fermer les enveloppes en général, et qui sont distribués par les marques dans les points de vente. Et quand j'ai distribué, il faut se rendre compte des ordres de grandeur, c'est-à-dire que chaque timbre réclame est imprimé à des centaines de milliers ou des millions d'exemplaires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu à l'époque. Alors en France, malheureusement, c'est pas un objet de collection courant. Par contre, en Allemagne, ça l'était à l'époque et ça l'est resté aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utiliser des banques de données où ces timbres réclames sont disponibles. J'ai pris tout ce qui était disponible. Il y a des biais de sélection, évidemment. Ensuite, je les ai classés par catégorie, par industrie, et j'ai regardé s'ils utilisaient des thèmes liés à la race ou liés à l'exotisme. Et la conclusion, c'est que les industries qui utilisaient des matières premières en provenance des colonies utilisaient ces thèmes-là dans des proportions largement supérieures aux autres industries. Donc, le lien entre l'origine des matières premières et la manière dont elles sont communiquées, il est présent. Les industriels des nouilles, par exemple, n'ont pas utilisé les motifs racistes dans les mêmes proportions que les industriels du café, du thé ou de la margarine.
Oui, parce que c'est en fait ce qu'on a longtemps étudié avec le chocolat, par exemple, où on faisait intervenir des personnes racisées pour vendre les produits, donc le personnage noir pour vendre du chocolat. Mais dans le cas des matières grasses, venu des colonies, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent. C'est-à-dire que l'idée d'associer l'huile de palme ou l'arachide à des personnes racisées dans les publicités, ça, voilà, c'est une constante et ça n'apparaît pas. C'est important de le dire parce que ça pourrait être dissimulé. Dans le même temps, vous nous avez dit que l'idée d'avoir des huiles pures, comme aujourd'hui l'huile d'olive pure, etc., c'est pas tout à fait dans les préoccupations. Donc, on pourrait se dire bon, bah, on va écouler en douce ces produits venus des colonies et puis ça passera sous couvert de produits de chez nous. Non, au contraire, c'est un argument de vente.
Il faut nuancer.
Nuancer.
C'est-à-dire que, déjà, toutes les graisses coloniales n'ont pas le même statut. On parlait tout à l'heure d'huile d'arachide qui est mangée sans trop de problèmes. Ça reste le cas au XXe siècle aussi, après qu'on a mis en place toutes les normes qui font que, bah, en 1920, c'est plus possible de vendre de l'huile d'olive dans laquelle il y a de l'huile d'arachide. Les normes ont changé. Donc l'huile d'arachide, c'est pas trop un problème. La graisse de coco, c'est aussi quelque chose que l'on peut manger, même si ça reste quelque chose de très mal vu. Et l'huile de palme, par contre, ça reste quelque chose de tabou. C'est la même chose après, d'ailleurs, pour la graisse de baleine. C'est quelque chose que l'on ne veut pas manger et que les industriels ne mettent pas en avant. Donc, quand on parle de représentations racistes, elles sont pas directement liées aux produits. On a plus il me semble que c'est l'historien Alain Ruscio qui a appelé ça un magma colonial, c'est-à-dire qu'on met sous le même, qu'on est sur la même affiche, on va mélanger différentes représentations racistes. Il s'agit bien d'un imaginaire colonial plutôt que d'une appellation contrôlée.
Oui, l'imaginaire colonial, c'est vrai, hein, c'est pas du tout l'idée de mettre en avant des produits de qualité venus d'une origine, mais c'est plutôt ici s'appuyer sur cet imaginaire qui est en lien avec, par exemple, l'exposition coloniale, celle de 1931, avec la question aussi de l'huile de palme. Elle est passionnante, hein, cette image de l'huile de palme, parce que autant pour l'arachide, le Sénégal, c'est un argument de vente avec cet imaginaire exotique. Quant à l'huile de palme, c'est autre chose, c'est considéré différemment.
Les exportations d'huile de palme et de palmistes doivent, d'après les dernières prévisions faites, atteindre 108 000 tonnes en 1952, alors que pendant la guerre, elles étaient tombées pratiquement à zéro.
La production mondiale étant d'environ 500 000 tonnes, nous tiendrons donc le cinquième rang parmi les producteurs.
Oui, c'est exact. Et il n'est d'ailleurs pas question pour nous de nous placer au meilleur rang, car les autres pays producteurs ont d'ores et déjà une production supérieure aux objectifs 52-53.
Mais quelle sera en France l'utilisation de toute cette huile de palme?
En France, l'utilisation traditionnelle de l'huile de palme est la fabrication des savons. Mais il existe bien d'autres débouchés. Avant 1939, déjà les États-Unis l'employaient pour la fabrication de graisses alimentaires et pour le traitement du fer blanc. Nous avons à l'IRHO des recherches qui sont en cours. Ces recherches permettent d'espérer une valorisation très considérable de l'huile de palme, aussi bien pour les usages alimentaires que pour la pharmacopée et même pour l'industrie des produits de beauté.
Oui, mais enfin, je crois savoir qu'à la popote de l'IRHO, on fait la cuisine et que l'on prépare même les salades avec l'huile de palme. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment savoureux?
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce produit, quand il est bien traité, est absolument identique à une excellente huile d'arachide.
Et ben voilà, c'est un représentant de l'IRHO, c'est l'Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux, ici en lien avec la volonté d'expliquer l'utilisation de l'huile de palme. Et si en 1949, c'est la date de l'archive, il y a ces explications, ça veut dire que ce n'est pas une évidence. Peut-être que la question n'aurait pas été posée pour l'arachide.
Il y a certains corps gras, tout à fait, qui n'arrivent pas du tout dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le discours public en Europe, en particulier l'huile de palme. Le tournant dans la consommation de toutes ces graisses d'origine coloniale, c'est la première décennie du XXe siècle, lorsque les chimistes inventent l'hydrogénation de la graisse. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, et vu comme quelque chose de fondamental. Donc l'hydrogénation, je suis pas chimiste, mais grosso modo, c'est un processus par lequel on peut transformer n'importe quelle graisse en quelque chose qui ressemble à du beurre, quelque chose de solide, de blanc et sans odeur, qui ressemble à du beurre. Et à partir de ce moment-là, les industriels ne sont plus du tout limités dans les types de graisses qu'ils mettent dans leurs produits. Et c'est là où on trouve des margarines avec des ingrédients très différents. Une décennie, ça va être des margarines qui sont faites uniquement à partir d'huile de baleine. Une autre, ça va être de la margarine qui est faite avec de l'huile de palme. Pour les consommatrices, les consommateurs, c'est très difficile, voire impossible, de sentir la différence.
Oui, et puis derrière tout ça, bah, y a évidemment tous ces phénomènes de mode qui existent aussi. On regarde ce qu'on fait, on discute, les habitudes culturelles, et puis toujours l'influence de la publicité.
France Culture.
Bonne cuisine,
le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Avec l'huile le sieur, bonne cuisine, avec l'huile le sieur, bonne cuisine, encore meilleure.
Est-ce qu'on voit un moment, Nicolas Kaiser-Brill, où ça devient important de dire aux gens qui consomment, ben voilà ce que vous consommez. Ça, c'est de l'huile d'arachide, ça, c'est de l'huile de palme, ça, c'est du beurre, mais il est ainsi. Et ça, c'est autre chose, c'est du saindoux, pour bien clarifier les choses.
Ça, c'est une problématique qui, à mon avis, est très récente. Alors, c'est vrai que le sieur, il est particulier parce que c'est un industriel qui prend énormément de risques, qui innove beaucoup. C'est lui qui invente le fait de vendre de l'huile dans des bouteilles, parce qu'à l'époque, il faut apporter sa bouteille et on utilise, il y a des grands tonneaux d'huile et on va prendre l'huile directement dans le tonneau. Donc, le sieur, c'est lui qui invente ce marketing moderne, y compris avec la publicité. Et le sieur, une des décisions qu'il prend, c'est de mettre sur toutes ses bouteilles que c'est de l'huile d'arachide de Rufisque. Donc Rufisque, c'est un port qui est à côté de Dakar. Mais c'est quasiment le seul. Hein. Il parle de Rufisque comme d'un argument commercial, mais on retrouve ça nulle part ailleurs. Les vendeurs de graisse de coco, qui sont encore très importants à l'époque, ne vont pas mettre sur leurs produits que c'est de la noix de coco de Tahiti. Donc c'est cette problématique des appellations d'origine contrôlée, même si ça arrive dans les années 1920 en France, hein, où c'est là où on commence à dire que tel fromage ne peut être produit que dans telle région. Ces appellations contrôlées, les colonies sont exclues du régime d'appellation contrôlée.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est que ici, il y a toujours cet argument de vente, mais on sait bien tous ces biais possibles autour de l'imaginaire colonial. La guerre du gras, une histoire politique et gastronomique de nos lipides préférés. Ou mal aimé, parce qu'il y a aussi cette question du mal aimé. Est-ce qu'on voit aussi se construire, en parallèle de tout ce que nous disons, une hiérarchie des matières grasses selon leurs bénéfices pour la santé? Et ça, c'est le discours médical qui doit s'inscrire aussi dans cette histoire-là.
Le lien entre gras et santé, il apparaît plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Avant, les corps gros... les matières grasses ne sont pas considérées comme étant responsables de la grosseur des corps. Ça devait plutôt être le pain, le vin ou la viande. Et la hiérarchie des matières grasses que l'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez tardif, là encore. Vous avez parlé hier du régime méditerranéen. C'est quelque chose qui, en France, arrive dans les années 1970. Et c'est là où il y a effectivement ce renouveau de l'huile d'olive. Huile d'olive qui, dans les années 1900, est utilisée principalement pour l'éclairage. Et là, maintenant, ça devient un élixir avec... des constantes, hein, l'huile de palme qui reste tout en bas, l'huile de palme qui était considérée comme étant très bonne dans les années 1800, qui avec le développement de la colonisation devient quelque chose de très mauvais, reste très mauvais tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle.
Puis nous utilisons le mot lipide, on pourrait ajouter celui de cholestérol. C'est l'idée de pouvoir mesurer aussi les lipides et leurs effets sur le corps humain. Et tout cet imaginaire-là autour du gras nous conduit aujourd'hui à plutôt nous en méfier, parce que manger trop gras, c'est pas quelque chose que l'on met de manière positive en avant.
Alors là, encore une fois, je suis pas nutritionniste. Par contre, d'un point de vue d'anthropologue ou d'historien, il y a une histoire de la diététique autour du gras. C'est difficile de savoir si y a effectivement des raisons scientifiques de préférer un gras à un autre.
Non, mais dans l'idée de mettre en avant des termes qui rendent le gras négatif, c'est ce qu'a étudié Georges Vigarello dans les Métamorphoses du gras, hein, l'histoire de l'obésité du Moyen-Âge au XXe siècle. C'est aussi voir apparaître ce vocabulaire-là. Lipides n'existait pas, ça existe à partir du XIXe siècle, et cholestérol, c'est pas un mot, je pense, qu'on retrouve de manière fréquente avant le XXe siècle. Est-ce que dans ces gras-là, il y a aussi la volonté de mettre de côté certains gras? Et on le voit aujourd'hui avec l'huile de palme, par exemple. C'est pas lié au produit lui-même, quoique, mais c'est aussi lié aux conséquences environnementales de toute cette histoire dans les colonies.
Conséquences environnementales, oui et non. Si on fait l'histoire de ces différents termes, je peux parler de l'huile de palme parce que c'est ce que j'ai travaillé dans ma thèse. On s'aperçoit, c'est l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de Mungo Park. Alors lui, il parlait de beurre de karité, mais on peut dire la même chose de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est quelque chose de très positif à la fin du XVIIIe siècle. On en met, par exemple, dans les baumes, dans le baume de Nerval, par exemple. L'huile de palme, c'est un des ingrédients, c'est quelque chose de très bien vu, et les voyageurs, comme on le disait tout à l'heure, les voyageurs qui arrivent en Afrique trouvent ça très bon. Et avec le développement de la colonisation, l'huile de palme, qui est consommée par les Africaines et les Africains, devient quelque chose d'intouchable. Pourquoi ? Parce qu'il est impensable pour les colonialistes de manger la même chose que les Africaines et les Africains. Et donc, on voit clairement dans les sources, tout au long du XIXe siècle, un produit qui est considéré comme très bon, qui devient petit à petit quelque chose d'absolument répugnant. Et Donc à la fin du 19e siècle, ça devient impensable pour quelqu'un qui se considère comme blanc manger de l'huile de palme. Et à mon avis, c'est la raison principale pour laquelle l'huile de palme n'est pas commercialisée en Europe sous ce nom-là.
Avec aussi des transferts culturels, hein, et vous le dites bien, de la part d'un colon, la méfiance toujours par la consommation, les produits consommés par les colonisés. Et à l'inverse, il y a des échanges culturels où le gras venu d'ailleurs est désormais consommé dans les anciennes colonies.
On a parlé du gras. Je reviens là-dessus parce que le gras, ce n'est pas seulement l'huile, hein. Nous ajoutons du gras pour enrichir pratiquement tous nos plats. Et j'insiste parce que nos grands-parents ne mangeaient pas ainsi. Quand on faisait du lard au Sénégal, le sou qu'on vous donne, on ne mettait pas de la crème fraîche dedans, n'est-ce pas? Or maintenant, dans les maisons, quand c'est du lard, le lard c'est de la bouillie qu'on aime bien chez nous et qui est très nutritif. Mais le lait qui l'accompagne, on l'enrichit. D'abord, c'est très sucré. On met des produits genre crème fraîche et autres qui sont hyper gras et qui sont issus du lait animal. Ça devient trop riche et trop gras. Il en est de même de l'utilisation du beurre. Chaque fois qu'il y a rien que pour faire un méchoui, déjà la viande du mouton est très grasse. S'il s'agit en plus de ça de mettre du beurre et une bonne couche de beurre pour que ça fasse bien, c'est quand même nocif.
Et nous avions ici, en 2012, hein, Marika Cissé qui évoquait la recette du thieboudienne. Donc là, ça nous conduit au Sénégal, mais avec l'idée aussi d'utiliser désormais du beurre dans des cuisines qui, auparavant, n'utilisaient pas. Toute l'histoire que nous racontons ici, cette histoire du gras et cette guerre du gras, c'est vraiment, on l'entend, une histoire coloniale, gastronomique, bien sûr, une histoire de distinction sociale. On voit bien aussi un consommer le gras de l'autre ou refuser le gras de l'autre. C'est ça qui permet aussi de construire cette longue histoire du gras.
Oui, à travers les époques, on voit bien qu'il y a plusieurs problématiques qui se croisent, plusieurs différents facteurs. Il y a le facteur naturel, évidemment. On peut manger que ce qui peut pousser sur place. Il y a des facteurs culturels. On pourrait parler de la consommation de l'art en Espagne au Moyen-Âge pour montrer que l'on n'est pas musulman ni juif. Et il y a aujourd'hui des facteurs de distinction sociale où on veut construire son identité en fonction des gras qu'on mange. C'est évidemment pas la même chose de manger du beurre d'appellation contrôlée ou de manger du beurre végétal produit à partir d'huile de palme.
Oui, et puis de manger du beurre doux, du beurre salé, mais ça c'est aussi foncièrement culturel et quelque chose qui nous relie à ce que nous sommes et à nos goûts aussi, parce que c'est une histoire gastronomique, hein, faut le rappeler. Le gras c'est bon quand même.
Bah oui, bien sûr, il s'agit à la fin de manger et de faire la cuisine.
Voilà, et de se faire plaisir, Nicolas Kaiser-Bril. Merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire, la guerre du gras, une histoire politique et gastronomique de nos lipides préférés ou mal aimés. C'est publié par
Nourriture Fu.
Et ben voilà, parce que ici, nous avons de l'anthropologie, de l'histoire et aussi du plaisir. Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Mais y aura-t-il du cassoulet au menu? Ça, c'est la question, parce que nous allons nous intéresser à ce qu'il y avait sur la table à Toulouse. Au Moyen-Âge.
Il faut des haricots. Messieurs, pouvez-vous me dire quelles sont les qualités nécessaires pour procéder au choix d'une variété de haricots pour un cassoulet?
Et nous, dans nos haricots, c'est les haricots qui prennent le goût de la viande. Et dans le cassoulet, c'est la viande qui prend le goût des haricots.
On va se régaler. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire remercie vivement l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche des archives. Le cours de l'histoire, émission écoutée à podcaster, mais ça vous le savez, sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.